Bonsoir. Je répète, merci beaucoup d'être venus si nombreux, mesdames, messieurs, chers publics. Oui, il y a encore deux ou trois petites places pour ceux qui cherchent, mais vraiment juste deux ou trois, c'est très bien. Bienvenue à cette soirée de débat. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une soirée importante pour nous, pour la maison. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Johann Chapoutau, historien majeur du nazisme et des imaginaires politiques autoritaires, pour son ouvrage « Les irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir ?» paru chez Gallimard en 2025. Je vais être bref. Déjà, je ne vais pas vous laisser supporter ma voix, mais aussi, on a beaucoup de choses à discuter ce soir. Mais il me semble quand même important de situer ce débat de ce soir dans le cycle qu'il inaugure. À partir de ce livre, « Les irresponsables », Johann Chapoutau nous invite à interroger les continuités idéologiques, culturelles et économiques qui rendent possible aujourd'hui encore le retour de formes autoritaires au sein même de sociétés démocratiques. Pour nourrir cette réflexion, il dialoguera avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ensemble, ils mettront en lumière les mécanismes par lesquels des héritages politiques anciens se recomposent, parfois discrètement, dans nos contextes contemporains. Une discussion essentielle pour comprendre ce qui se joue derrière les succès des nouvelles droites radicales et la fragilisation actuelle de l'état de droit. Cette soirée marque l'ouverture d'un cycle que nous avons souhaité ambitieux et qui nous a semblé nécessaire, notamment cette année, qui marque les 70 ans de la maison Heinrich Heine, une maison fondée au moment de la réconciliation franco-allemande et toujours consciente de son histoire et son héritage. Nous avons appelé ce cycle « Démocratie fragilisée, un retour des autoritarismes ». Dans un moment où les certitudes démocratiques vacillent, ce cycle propose de croiser regards historiques, philosophiques et sociologiques afin de mieux saisir les conditions du basculement autoritaire, mais aussi celles de la résistance démocratique. Les prochains rendez-vous prolongeront cette réflexion ce soir avec Götz Ali, l'historien, Axel Honneth, et Corinne Peluchon, que nous aurons le plaisir d'accueillir dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ou bien de prendre un petit programme dans lequel sont déjà marquées les dates des prochains rendez-vous sur lesquels Michaela Wiegel va nous accompagner. Nous la remercions très vivement pour son investissement dans ce cycle et qui est donc particulièrement important pour nous. Enfin, nous vous rappelons qu'une vente de Les Irresponsables est prévue à l'issue de la rencontre. Je vous remercie encore de votre présence. Je salue tout particulièrement certains membres du conseil d'administration de cette maison, mais aussi tout particulièrement M. Goldschmidt, d'être ici avec nous ce soir. C'est un honneur tout particulier de vous avoir avec nous pour cette réflexion. Alors, bons échanges. Je vous laisse dans les mains de Michaela.
Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je suis très honorée d'ouvrir ce cycle et permettez-moi dans cette salle, Alfred Grosser, d'avoir une petite pensée pour Alfred Grosser qui aurait été très fier de voir autant de monde autour de ce sujet que nous allons discuter. Alors j'avais envie quand même, je ne sais pas s'il y a des professeurs dans cette salle, mais d'ouvrir un petit peu, bon tout le monde connaît l'historien, mais je ne sais pas si votre vita est si connue. Moi en tous les cas j'étais fascinée par ce que vous racontez dans divers entretiens, que vous avez grandi à Martigues, donc à côté de Marseille, et que au départ, vous n'étiez pas l'excellent élève qu'on peut supposer, et que c'est vraiment votre grand-mère, prof de mathématiques, comment vous avez dit, qui vous a déverrouillé, je crois que c'est ça le mot, vous avez eu la chance, alors qu'au collège, vous étiez dans une zone d'éducation prioritaire, de tomber sur une excellente professeure d'allemand, et que du coup, à la fin de votre classe de troisième, vous étiez quasiment bilingue. Et je crois, c'est vous qui le dites dans un entretien. Et je crois qu'on peut dire qu'à travers votre formation, vous honorez aussi le travail des professeurs et qu'on peut tout à fait, en grandissant, comme vous dites, dans un milieu où le Front National est très présent et dans une école qui est plutôt communiste, rouge, les profs, les fameux profs rouges, qu'on peut se prendre de passion pour l'Allemagne. Vous avez eu de la chance d'être jeune et d'être né suffisamment tard pour pouvoir visiter l'Allemagne juste après la chute du mur et d'avoir vos premiers voyages scolaires dans la ville de Bach. Eisenach. Je raconte tout cela pour, je crois, vous situer dans ce contexte. Alors, j'ai aussi été fascinée par, vous dites, après la naissance de votre fille, vous avez eu une phase où vous ne vouliez plus rien à faire avec l'époque nazie, avec, vous avez fait une sorte de refus. Alors, nous sommes heureux que vous êtes revenu parce que votre livre, Les Irresponsables, est vraiment une passionnante plongée dans tout ce qui se tramait avant que Hitler arrive au pouvoir. Et je pense ce qui est le plus fascinant, et vous citez d'ailleurs un essai de deux historiens allemands, que rien n'était automatique, mais que c'était l'accumulation de mauvais calculs, des erreurs et d'affaiblissement d'institutions qui a rendu possible l'arrivée de Hitler au pouvoir. Alors, j'ai fait une longue introduction, mais ma première question, c'est vraiment la question pour vous, qui a porté Hitler au pouvoir ? C'est aussi votre sous-titre.
Merci beaucoup, Michael Wiegel, pour cette introduction. J'avais l'impression d'être chez le psy là, au début. Et tiens, j'allais sortir 150 euros pour vous remercier. Mais merci beaucoup hein, d'avoir fait ce travail de connaissance mutuelle. Pour tout vous dire, dans mon travail jusqu'ici, je n'ai pas fait d'histoire politique et je n'avais pas du tout prévu de faire ce livre-là, comme je n'avais pas prévu de faire le livre que je suis en train de terminer et qui va porter sur les 6 premiers mois de l'année 1933. Autrement dit, après la phase préparatoire, la phase d'effondrement d'un extrême centre qui fait alliance avec l'extrême droite, comment se passe ensuite la fascisation d'un pays, concrètement, par quel mécanisme concret ? Je dois vous dire que ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale résonne étrangement avec ce que je lis quotidiennement depuis un peu plus d'un an et que ça m'a fortement ébranlé. Je ne pensais pas qu'en France, en 2026, à quelques mois de la panthéonisation de Marc Bloch, on céderait à la demande d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS pour honorer un militant néo-nazi. Je ne pensais pas ça possible. Voilà. Hier soir, nous étions invités avec Nicolas Offenstadt au micro de France Culture pour parler de violence politique. Nous avons déploré, comme tout le monde, la mort d'un individu qui est injustifiable, quoi qu'il en soit. Quelle que soit évidemment sa provenance, son opinion, enfin ça ne fait même pas débat. On aurait aimé que les 11 personnes qui ont été tuées en France par l'extrême droite depuis 2022 bénéficient d'une minute de silence à l'Assemblée nationale. Il ne me semble pas que ça ait été le cas. Et je pense que ça mérite d'être rappelé. L'extrême droite, en termes de rixes et de descente violente, de ratonnade, c'est une violence de ce type-là par semaine. Une violence de ce type-là par semaine. Ça ne fait pas les gros titres. Ça n'émeut pas, monsieur Le Cornu, l'Assemblée nationale. Ça ne suscite pas les envolées pseudo-lyriques de l'actuel résident de la République et ni l'émotion de l'actuel ministre de l'Intérieur. Ça me semble problématique et en tout cas parfaitement illustrateur de ce que j'ai étudié pour l'année 1932-1933, c'est-à-dire précisément ce qui s'est produit à cette époque, un gouvernement, un pouvoir qui avait confisqué le pouvoir, en réalité un pouvoir exécutif qui avait confisqué tout le pouvoir depuis mars 1930, puisque depuis mars 1930, on ne respecte plus le résultat des élections, ce qui évoque peut-être deux ou trois choses plus contemporaines. On gouverne par état d'urgence permanent. Ensuite, on aggrave cette pente-là par un pouvoir libéral autoritaire qui est celui de Franz von Papen, donc très pro-patronat, politique de l'offre, pro-business, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté libéral. Le côté autoritaire, c'est une faible conception des principes de la démocratie, on va dire. Le fait aussi de ne pas respecter le résultat des élections, ce que l'on a vu récemment, comme vous le savez, dans ce pays. Cet extrême centre-là, qui est d'accord en réalité sur à peu près tout avec l'extrême droite. Sur le nationalisme, sur la condition des femmes, sur la condition des minorités, sur l'antisémitisme, sur les clientèles électorales à favoriser, c'est-à-dire en l'occurrence les dominants économiques et le patronat ou les divers patronats. Ils sont d'accord sur à peu près tout. Ils sont d'accord également sur l'ennemi. L'ennemi, c'est alors ce que l'on appelait le marxisme. La gauche au sens large, les communistes, bien sûr, ça va de soi, comme les antifas, c'est très dangereux. Et par ailleurs, les sociodémocrates eux-mêmes, alors que le SPD allemand à l'époque ferait presque passer le PS actuel pour un parti de gauche, ainsi que les syndicats, y compris les syndicats chrétiens, qui étaient eux aussi qualifiés de marxistes. Et cet extrême-centre a fait le choix sordide, froid, cynique, de s'allier avec l'extrême-droite sur le fondement de cette plateforme commune. À un moment d'ailleurs où l'extrême droite était en perte de vitesse, ce qui est une petite différence avec nous aujourd'hui, puisque le parti nazi s'effondre à l'automne 1932. Et c'est à ce moment-là que, dans un geste de spéculation politique ultime, Franz von Papen, ce génie, a eu l'idée de faire alliance avec l'extrême droite dans un gouvernement de coalition des droites, on le disait déjà à l'époque, droite-extrême droite, qui prête serment le 30 janvier 1933, à un moment où plus personne en Allemagne, plus personne, ni en Allemagne ni à l'étranger, ne pariait un Reichsmark sur l'arrivée des nazis au pouvoir. Puisque de fait, ils étaient en perdition électorale, au niveau national, au niveau du Reich, au niveau des Länder, au niveau des communes. Et par ailleurs, le parti nazi lui-même était travaillé de forces centrifuges qui le menaçaient d'éclatement. Quand vous lisez le journal de Goebbels fin 1932, on voit que l'ambiance n'est pas tout à fait la fête. Goebbels parle de sa dépression, confie que le Führer, comme il l'appelle, a parlé de se suicider fin 1932. Et c'est ce moment-là que, dans un geste, encore une fois, de boursicoteur politique, Papen a choisi pour acheter les nazis à la baisse. Et de fait, de ce point de vue-là, d'un point de vue tactique, il a réussi, puisque à l'été 32, au maximum nazis, maximum qu'ils n'ont jamais plus atteint nulle part, sauf dans des élections truquées, comme le 5 mars 33. Mais les dernières élections libres où ils ont atteint un maximum, c'est le 31 juillet 32. Les nazis font 37,3%, ce qui est énorme, mais ce qui est plus faible que ce qu'ils espéraient. Et à ce moment-là, des négociations ont lieu pour un gouvernement de coalition, droite, extrême droite. Et les exigences nazies, c'est 1, la chancellerie, et 2, 6 ministères, ce qui était un peu beaucoup. De fait, le 30 janvier 1933, ils ont une chancellerie, mais alors complètement dévitalisée par le fait que les pouvoirs d'Hitler sont très réduits dans le gouvernement, le 30 janvier 1933. Ensuite, ça va changer, et vite, parce qu'ils n'ont pas anticipé la dynamique nazie. Mais sur le papier, le gouvernement droite-extrême-droite est une victoire éclatante, tactique, de Papen et de la droite. Vous n'avez plus que 2 ministres nazis, en réalité 1,5. Frick à l'intérieur, mais l'intérieur au niveau du Reich, c'est pas grand-chose. Ce n'est certainement pas la direction de la police, parce que la police, c'est les Länder. Et Göring, ministre sans portefeuille, ohne Geschäftsbereich. Et un chancelier qui est flanqué, on dirait en football marqué à la culotte, flanqué de 2 adultes dans la pièce, que sont Franz von Papen, qui a exigé d'être présent à tous les entretiens du nouveau chancelier avec le Reichspräsident, ce qui est quand même une mise en minorité, en tutelle politique surprenante. Franz von Papen a exigé d'ailleurs aussi que le Reichskommissariat für Preußen, le commissariat du Reich pour la Prusse, soit attribué non pas au chancelier, comme c'est le cas depuis juillet 1932, mais au vice-chancelier, c'est-à-dire lui. Et par ailleurs, 2 ministres qui sont là un peu pour jouer les utilités, parce qu'encore une fois, le ministre de l'Intérieur n'est pas le premier flic d'Allemagne, il n'y a pas de police nationale, création des nazis, comme c'est une création de Vichy en France, au passage. Et par ailleurs, Göring est ministre sans portefeuille. Donc tout ça pour dire peut-être, et on en parlait tout à l'heure, que ce moment du 30 janvier 1933, qu'on nous présente comme Welthistorisch, que les nazis eux-mêmes ont mis en scène comme étant une césure d'histoire mondiale, alors déjà passe à peu près inaperçu dans la presse de l'époque. C'est-à-dire que c'est le troisième chancelier en un an, moins d'un an, en 8 mois. C'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement nazi, c'est un gouvernement où la droite est majoritaire, la droite a les principaux ministères, et la droite a le contrôle de tout ça. Et par ailleurs, c'est un moment que désormais on nous présente comme le paradigme de la fatalité en histoire. Les nazis ont gagné, ils n'ont jamais gagné. Hitler a été élu, il n'a jamais été élu. Paradigme, si vous voulez, de fatalité en histoire, produit par des mouvements d'ordre tellurique ou tectonique, la poussée nazie ou hydrographique, la marée brune, comme si on avait affaire à des sciences naturelles, comme si on avait affaire à des phénomènes naturels régis par la nécessité naturelle, alors qu'on est dans le domaine des sciences humaines, qui n'est pas régi par la nécessité, qui régit au mieux par l'obligation, en réalité par l'indétermination. Et en réalité, ce moment du 30 janvier 1933, que tout le monde va vous vendre sur les plateaux télé pour vous dire « Bon, habituez-vous à Bardella, parce que maintenant, c'est notre tour. » Parce que forcément, l'extrême droite finit toujours par gagner. L'extrême droite ne gagne jamais. Jamais. Elle n'a pas gagné en Allemagne. Les Allemands ne voulaient pas de ça. Et en travaillant sur 1933, j'ai des indicateurs chiffrés et qualitatifs pour le montrer de manière explicite. Et ce moment du 30 janvier est un moment qui, en réalité, selon tous les scénarios les plus plausibles, aurait dû se passer autrement. C'est-à-dire que, concrètement, le 30 janvier au matin, on convoque les anciens ministres de Papen et de Schleicher pour leur dire « Venez prêter serment, vous faites partie du nouveau gouvernement, félicitations. » Très bien. Qui est le chancelier ? On verra. C'est-à-dire qu'ils sont convoqués... Schwerin von Krosigk, von Neurath, von Elstrubenach, etc., sont convoqués dans le flou. Quand ils arrivent à la chancellerie, que se passe-t-il ? On a une dispute homérique entre Hitler et Alfred Hugenberg sur la question de la dissolution du Reichstag. Hugenberg ne veut pas, Hitler veut. Eh bien, cette dispute qui retarde la prestation de serment et qui manque de faire échouer le gouvernement, elle est interrompue par un geste d'autorité du docteur Otto Meissner, qui est le secrétaire d'État auprès de la présidence du Reich, secrétaire général de la présidence du Reich en réalité, qui descend les escaliers, qui exhibe sa montre, il dit « Messieurs, on ne fait pas attendre le Reichspräsident. Le général fait le maréchal patient depuis 10 minutes. » En termes de réflexion contrefactuelle, là on est à un point nodal et à un point pivot. C'est-à-dire que si ce matin-là, Otto Meissner la grippe qui sévit partout dans Berlin et qui fait que Brüning, par exemple, est agonisant, une grippe terrible en Allemagne à ce moment-là, s'il est enroué, s'il est fatigué, s'il est fiévreux, pardon, s'il chute dans l'escalier, il n'y a pas de gouvernement Hitler, Papen, Hugenberg. Ça tient à ça. Donc moi, je veux bien qu'ensuite, on nous présente ce moment comme le paradigme de la fatalité en histoire. Et donc l'invitation au fatalisme à la fois historique, épistémologique et politique, mais ça s'est joué quand même à pas grand chose. Et je pense que pour nous aujourd'hui, souvenons-nous de juin 2024, hein, 27 instituts de sondage sur 27 nous disent c'est le RN. Ah oui, étonnant. Ça ne s'est pas produit ainsi. Donc, le tout, si vous voulez, adossé au soutènement de l'histoire, parce que regardez, en 33... la marée brune, la poussée nazie, la tectonique politique, etc., etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je trouvais qu'il était important de revisiter ce moment-là pour, un, défataliser l'histoire, et deux, se désincarcérer intellectuellement, politiquement et civiquement, pour sortir de cette espèce de cauchemar permanent dont l'après-midi à l'Assemblée a été une illustration pure et parfaite.
J'aimerais beaucoup qu'on examine un petit peu, justement... les facteurs qui ont permis ce moment que vous décrivez effectivement. Et je pense que ces deux historiens allemands qui ont notamment eu accès à des documents sur Hindenburg qui n'étaient pas connus jusque-là. Exactement. Je parle de Rainer Ort et de Wolfram Pila, qui ont constaté qu'en fait, Hindenburg était vraiment devant un choix de décélérer, c'est-à-dire opter pour von Schleicher, qui avait espéré de faire une scission en quelque sorte du parti nazi en donnant un poste de vice-chancelier en quelque sorte à Strasser, ou alors de nommer Hitler. Et donc ça montre quand même à quel point le président joue un rôle central. Si vous pouvez, vous avez fait beaucoup d'analogies, je ne suis pas d'accord avec toutes les analogies, mais si vous pouvez quand même en dire un petit peu plus et probablement aussi expliquer un peu mieux le terme d'extrême centre, qui est aussi un terme, je trouve, d'une actualité qui est un peu la justification du « en même temps ».
Moi, je ne justifie pas le en même temps. Pour le coup, j'aurais plutôt tendance à être réservé vis-à-vis du en même temps. En même temps, on se couche devant Trump et en même temps, on panthéonise Marc Bloch. En même temps, on honore un militant néo-fasciste et on panthéonise Marc Bloch.
Le président est aux Indes. Hein. Il a beaucoup de responsabilités, mais pas pour le Parlement.
Hein. C'est vrai. Ce ne sont pas du tout ses amis qui sont à l'œuvre en ce moment. Mais non, ou Monsieur Attal qui estime qu'il n'y a plus de droit international et que maintenant c'est le règne de la force. J'ai trouvé ça croquignolé. Alors, pour revenir, il faut revenir un petit peu en amont. En réalité, il faut revenir à 1928. 1928, vous avez une République de Weimar qui est sur sa vitesse de croisière, contre toute attente et malgré le fait que les puissances alliées ne l'aient pas vraiment aidé, hein, puisqu'on a tout fait pour l'assassiner dès le départ. Hein, je veux dire, entre Versailles, l'hyperinflation, ça, on n'y pouvait rien, mais en tout cas, Versailles et puis l'occupation de la Ruhr, c'était quand même particulier. Cette République de Weimar fonctionne. Et il me tenait à cœur de revenir sur ce discours qu'on entend sur lequel la République de Weimar était faible, fragile, friable, etc. Non, une République démocratique, parlementaire, doublée d'une démocratie sociale, contre vents et marées, et contre l'environnement international, avec des ennemis intérieurs qui étaient assez sérieux, elle a tenu admirablement. 1928, vous avez des élections qui sont gagnées, ça faisait un moment, hein, en majorité relative, ça me rappelle deux choses aussi, gagnées par le SPD. Le SPD fait le meilleur score de son histoire sous Weimar, 30%. La logique parlementaire, comme vous le savez, invite instamment le président à appeler un membre du SPD, parti majoritaire, pour former un gouvernement, charge à lui d'y réussir ou pas, de se faire voter la confiance ou pas. Le président Hindenburg met 3 semaines, petite procrastination là aussi estivale, 3 semaines à appeler Hermann Müller, qui vraiment n'est pas un foudre de guerre. C'est quelqu'un de très gentil, très poli, qui trouve que l'austérité c'est bien, que la dette c'est mal, voilà. C'est pas un marxiste fou, si vous voulez. 3 semaines à nommer social-démocrate, alors que ça aurait dû être fait dans la journée ou le lendemain. Pourquoi ? Parce que le président Hindenburg, c'est un fossile de l'Ancien Régime, c'est un héritage du Kaiserreich, c'est un homme qui a une répulsion physique à envisager un dialogue avec un SPD. Le SPD, c'est le rouge, c'est le marxiste, c'est le Vaterlandsloser Geselle, c'est le Verräter, c'est tout ce qu'on veut, donc non. Il s'y résout. Hermann Müller obtient la confiance du Reichstag par un gouvernement de grande coalition. La grosse coalition, ce n'était pas une invention contemporaine. Première grande coalition en 1923 avec Stresemann. Deuxième grande coalition, gouvernement Hermann Müller en 1928 avec la droite. Et il se trouve que ce gouvernement, alors il ne révolutionne, c'est pas Che Guevara, hein, ne révolutionne pas grand-chose, mais fait passer quand même 2-3 mesures sociales, un peu d'assurance chômage, un peu d'augmentation des minima sociaux, enfin tranquille. Par ailleurs, le gouvernement, comme le veut la Constitution, s'interpose lors d'un grand conflit dans la Roure, à l'automne 1928, et arbitre au bénéfice des grévistes. Et alors là, le MEDEF de l'époque, qui s'appelle le RDI, Reichsverband der Deutschen Industrie, vrille complètement. Entre en guerre, mais il le dit lui-même, hein, le MEDEF de l'époque rentre en guerre contre ce gouvernement de gauchistes fous, social-démocrates et droite, bon, et décide que... Alors, il y a le RDI publie une brochure intitulée « Aufstieg oder Niedergang ». Alors, choisissez, hein. Voilà. Et au sein du cabinet présidentiel, donc, l'entourage proche d'Hindenburg, ce qu'on appelle la Camarilla, hein, la petite chambre, le petit cabinet, vous avez déjà des réflexions autour déjà du général von Schleicher, qui est un conseiller proche, un haut fonctionnaire du ministère de la Guerre, un ami du fils, Oskar von Hindenburg. Des réflexions se multiplient pour savoir comment se débarrasser d'Hermann Müller, du SPD, et comment gouverner malgré ou sans le Reichstag. La solution est trouvée. Il s'agit de faire un usage illégitime, disproportionné et forcené de l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar, qui dispose, dans une admirable nébulosité poétique, hein, que... En cas d'urgence ou de nécessité, le président du Reich peut disposer des pleins pouvoirs. Alors, l'état d'urgence, enfin, le cas visé, on ne sait pas ce que c'est. L'étendue des pouvoirs, ce n'est pas précisé. C'est toujours, cette touchante indéfinition des articles qui prévoient les pouvoirs exceptionnels. Regardez l'article 16, vous en allez faire des cauchemars. Hein. C'est une monstruosité juridique. Rien n'est précis dans tout ça. En cas de, il peut faire ce qu'il veut. L'article 48.1, c'est pour les Länder, l'intervention, ce qu'on appelle la Reichsexekution, hein, contre les Länder, et 48.2, c'est au niveau du Reich. Et donc, ce qui avait été pensé par le constituant en 1919, les débats de l'Assemblée de Weimar de 19 en font foi. Quand on veut savoir la signification d'un article, on se réfère au débat parlementaire, au débat de la constituante. L'intention des constituants en 19, c'est de faire face à ce qu'on imagine comme situation exceptionnelle. Pandémie, catastrophe naturelle, invasion du territoire, ou que sais-je encore. Là, on va exciper de cet article pour non pas faire face à l'extraordinaire, la pandémie ou l'invasion, mais faire passer l'ordinaire du gouvernement, le budgétaire. Les premières ordonnances du nouveau gouvernement Heinrich Brüning, sont des ordonnances, article 48.2, une artillerie juridique monstrueuse, pour écraser un moustique. C'est-à-dire pour faire passer une nouvelle taxe sur le tabac et sur la bière. L'article 48.2, pouvoir exceptionnel, c'est pour faire passer le budget. Je ne fais pas de dessin, hein, sur... voilà. À partir de ce moment-là, ça c'est mars 1930. On comprend que ce soit tentant, parce que vous n'avez plus besoin d'un Reichstag et d'élections. De quoi vous avez besoin pour gouverner? Vous avez besoin d'une feuille de papier A4, d'un encrier, d'un porte-plume et d'un tampon. Et avec ça, chat perché. Vous dites, ceci est une loi. C'est un décret-loi, une Notverordnung, une ordonnance d'urgence, qui fait que, par la magie de l'article 48.2, votre décret, votre acte réglementaire en droit, est en fait un acte législatif. Monstruosité juridique. Pendant un peu plus de 2 ans, pendant 3 ans en réalité, on va accoutumer les Allemands à 2 choses. 1, vous votez, mais on s'en fiche. On ne tiendra pas compte du résultat des élections. Deuxièmement, nous gouvernons en état d'urgence permanent. Quand les nazis arrivent, le 30 janvier 1933, et qu'ils disent, écoutez, nous, les élections, il n'y en aura plus. Et 2, c'est état d'urgence permanent. Mais ça fait 3 ans que ça dure, hein. Les nazis se sont douillettement coulés dans les chaussons, préparés, non pas par von Papen, mais auparavant par Heinrich Brüning et par le président du Reich et son entourage. Entourage qui relève de la tératologie politique. Hein. Quand vous voyez l'entourage d'Hindenburg, c'est le Reichslandbund, donc les grands propriétaires terriens de l'est de l'Elbe, c'est l'armée von Schleicher, c'est le fils, alors là, comme on est en monarchie, l'entourage présidentiel, j'y consacre un long chapitre à cette, au règne des entourages, parce que là aussi, la comparaison est éclatante avec aujourd'hui, parce que lorsque vous êtes dans un gouvernement qui devient, au sens littéral, monarchique, toute une culture de cour se met en place. Il faut avoir accès à la personne du prince, du souverain, du président, etc. Et ne reste autour du président ou du régnant quelconque que les plus médiocres, en réalité. Ceux qui ont une colonne vertébrale, deux, trois idées, un peu de personnalité, dessous de dignité et un visage sont partis. Ne reste que ceux qui ont pu supporter pendant des années les caprices, les matchs de boxe, les etc. Au fond, cette servilité permanente et dégradante. Toute chose étant égale par ailleurs, il me semble qu'on a pu montrer que la dissolution de juin 2024 avait été décidée par qui ? Bruno Roger Petit, lumière intersidérale du journalisme et de la pensée politique, grand amateur d'extrême droite, Brigitte Macron, dont on ne pense pas qu'elle ait été élue à quoi que ce soit, et sans doute le chien Nemo, qui, dans ce petit groupe, avait peut-être le plus de sagacité politique et intellectuelle.
J'ai noté que vous avez dit du positif de la constitution de Weimar, qui malgré, et ça il ne faut jamais l'oublier, tous les soubresauts, vous avez parlé de l'occupation de la Ruhr, on a eu la crise de 1929, la crise financière. Alors j'étais fascinée parce que vous décrivez vers la fin de votre livre aussi que cette constitution de Weimar, moi j'ai fait Sciences Po et comme tous les bons Sciences Po, j'ai appris que la constitution de la Ve République était inspirée par les discours de Bayeux du général de Gaulle. Et vous décrivez que notamment René Capitan, grand juriste, grand résistant, compagnon du général de Gaulle, s'était beaucoup intéressé, il venait de Strasbourg, il était germanophone, beaucoup intéressé à la constitution de Weimar et pensait que c'était une solution aux maux, en quelque sorte, de la Troisième République, puisque ça permettait une présidentialisation des pouvoirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que je trouve, du coup, vos analogies prennent de l'ampleur.
Alors, en réalité, oui, il y a des analogies. Alors, pas dans le livre, hein, je développe les aspects analogiques dans
l'épilogue. Que à la fin,
oui. Dans l'épilogue. C'est un livre d'histoire avec 1200 notes en bas de page qui relèvent d'un artisanat honnête et laborieux d'un historien qui lit des sources, qui les travaille et qui lit l'historiographie. Dans l'épilogue, effectivement, je rappelle que toute histoire est contemporaine et que nous adressons au passé le questionnaire du présent. Toute histoire est située. Nous faisons aujourd'hui l'histoire de l'environnement du Bas-Empire romain. Nous ne le faisions pas il y a 30 ans. Mes collègues d'histoire grecque au jury de l'agrégation font de l'histoire du genre en Grèce classique. Ils ne le faisaient pas il y a 50 ans. C'est une évidence, mais ça vaut de le rappeler pour montrer qu'encore une fois, toute histoire est contemporaine. Et je ne m'en cache pas et je dis clairement que, ayant prévu de travailler sur toute autre chose, j'ai été saisi par l'actualité, en l'occurrence par le vote de la loi immigration en décembre 2023, que Mme Le Pen avait très justement salué comme étant une victoire idéologique.
A été invalidée par le Conseil constitutionnel.
Oui, après avoir été votée donc, par une alliance entre les macronistes et les lepenistes. Hein, cette fusion extrême-centre, extrême-droite me semblait éclatante. Alors, bon, elle a été confirmée maintes fois depuis, mais là, je me disais qu'il y avait quelque chose de... Moi, ça m'avait pris à la gorge, vraiment. Hein, ça m'avait vraiment inquiété. Et comme en cours, à la Sorbonne, un peu à la volée, sans avoir vraiment retravaillé la question... Je parlais beaucoup de von Papen. Je disais que ça me rappelle deux, trois trucs quand même, cette histoire de libéralisme autoritaire. Alors, l'expression libéralisme autoritaire, elle date de 1932. Elle a été forgée par Hermann Heller, hein, docteur en droit, professeur de droit à l'Université de Francfort, social-démocrate, juif, toutes les qualités pour les nazis, donc, et qui donc qualifiait le gouvernement Papen, Papen von Geil, et leur spiritus rector, en l'occurrence Carl Schmitt, de libéral autoritaire. Le syntagme a été forgé à cette époque-là. Le terme d'extrême-centre que vous mentionniez tout à l'heure, lui, il est contemporain, puisque c'est une création de l'historien Pierre Cerna, professeur à l'Université Paris 1, qui, dans son habilitation sur le directoire, a forgé cette catégorie d'extrême-centre pour désigner des gens qui, en 1795, disent « Bon, la révolution, c'est terminé, maintenant, on va faire des affaires. C'est la guerre, donc, c'est les fournitures aux armées, c'est le fourrage, c'est les chevaux, c'est les armes, c'est la poudre. » C'est l'histoire du père Goriot, hein. C'est exactement ça, hein, c'est cette nouvelle classe, hein, qui se nourrit de la guerre, qui veut la paix civile pour la prospérité des affaires, qui crée tout un vocabulaire qui montre Pierre Cerna apparaît à ce moment-là. Nous sommes le centre, le camp de la raison. Il y a les extrêmes, ce vocabulaire apparaît à ce moment-là. L'extrême droite, royaliste, l'extrême gauche, jacobine. Et comme nous sommes des amis du genre humain, des tempérés, des gens qui aimons la paix civile, lorsqu'on va contester notre pouvoir, nous allons faire tirer au canon dans les rues de Paris par leur factotum de l'époque, Didier de l'Allemand de l'époque, qui s'appelle Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que si jamais vous contestez quoi que ce soit de notre pouvoir et de nos intérêts, on tire...
À mon avis, ça plaît à Didier l'Allemand si vous le comparez à Napoléon.
C'est vrai que c'est un peu... Peut-être, oui. Un peu illégitime. Mais disons qu'on voit... l'équivalence fonctionnelle. On a besoin d'un massacreur. On a besoin de quelqu'un qui va vous montrer que si jamais vous levez un petit doigt et si jamais vous contestez une politique qui est contraire aux intérêts de 99% de la population, celle de l'extrême-centre, on va vous tirer dessus. Parce que c'est à vos risques et périls. C'est la fonction de Napoléon. Donc tout ce que... Enfin, de Bonaparte, plutôt. Tout ce qui se met en place à ce moment-là, pour Pierre Cerna, c'est matriciel, et ça se reproduit régulièrement dans l'histoire des restaurations au XIXe siècle, de la Troisième République, de la Quatrième, et jusqu'à la parousie de 2017. Donc ça, ce terme d'extrême-centre, il est contemporain, mais il me semble, pour le coup, parfaitement pertinent et heuristique pour lire... ce qu'il se passe en 1932. Et avec tout ça, j'ai oublié ce que je vous disais.
Oui, on voulait parler de Weimar, la Constitution et la Constitution de la Ve République. Avec, effectivement, quand vous comptez maintenant tous ces articles, on a tout de suite en tête des chiffres peu...
Vous parliez de Sciences Po. Alors, malheureusement, moi aussi, je fais Sciences Po parallèlement au reste. J'ai pas été édifié par le niveau que j'y ai rencontré. Par contre, j'ai vu ce qui explique beaucoup de choses en termes d'espace cognitif français, de plateau télé, de journalistes, de qualité du personnel politique. Hein. Je sortais de Cagnes. Je peux vous assurer qu'arrivé à l'IEP de Paris, ça m'a fait bizarre. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et dans cet endroit-là...
Vous pouvez être plus précis.
On pourra y revenir. Mais en tout cas, on y apprend ce qu'il faut dire quand on est poli en dîner en ville, notamment que la Constitution de la Ve République est sortie toute armée du cerveau génial du général de Gaulle et que c'est mon général, comme l'appelait le canard enchaîné, qui a créé, etc. Or, les travaux... Alors, ça, c'est pas moi qui le montre. Hein, je me suis fondé sur les travaux de mes collègues juristes, professeur Stéphane Pinon, qui avait fait sa thèse sur les juristes réformateurs des années 30, sur les réformateurs de l'État, comme on les appelait, le professeur Olivier Beau, bien sûr, grand spécialiste de Weimar, de René Capitan, qui ont bien montré que De Gaulle avait un cerveau juridique et constitutionnel qui s'appelait René Capitan, qui, effectivement, grand résistant, grand opposant au nazisme, compagnon de la libération, les états de service impeccables. Avant cette histoire-là, René Capitan, jeune agrégé de droit public, est nommé à l'université de Strasbourg, lit l'allemand, correspond avec Carl Schmitt, pour lequel il a intellectuellement une admiration bien compréhensible, et fait deux articles pendant l'année 1932, deux articles de revue scientifique, sur le rôle politique du président du Reich. dans un contexte de confiscation du pouvoir par le pouvoir exécutif, article 48.2. Et ayant en visée ce qu'on appelait la crise du parlementarisme en France à l'époque, il dit, mais voilà la solution. Il nous faut revenir avant 1877, ou alors complètement dépasser l'édifice de la Troisième République, mais revenir avant le 16 mai 1877, revenir à un président qui a du pouvoir et qui, le cas échéant, gouverne sur le fondement de l'état d'exception en court-circuitant le Parlement. C'est la solution pour la France. Alors évidemment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ça, comment dire, c'était congruent avec l'idée que se faisait le général de Gaulle. Discours de Bayeux en 1946, c'est raté pour 1946, mais 1958, c'est la séance de rattrapage. René Capitan ne fait pas partie du groupe qui s'en occupe, c'est Michel Debré. Lui-même, juriste réformateur de l'État dans les années 30, grand admirateur des pouvoirs autoritaires, etc. Et ils le font un décalque, non pas de la Constitution de Weimar, qui est libérale, démocratique et parlementaire, mais un décalque de la torsion de la Constitution de Weimar post-1930. Post-mars 1930. En l'occurrence, tous les pouvoirs exorbitants du président du Reich étaient, par exemple, des pouvoirs, ce qu'on appelle les compétences partagées en droit public ou en droit constitutionnel. Il y avait un contre-saint du chancelier, du ministre des Finances, selon les matières de l'ordonnance. Bon. Regardez l'article 12, dissolution. Regardez l'article 16, plein pouvoir. Pouvoir propre du président. C'est-à-dire que dans la Constitution de Weimar, il y a formellement des garde-fous. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour garder le fou. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et ça nous donne Bruno Roger Petit et Brigitte qui disent « Ah, ce serait bien si on dissolvait. » Allons-y. Article 12. Alors, dont on sait d'ailleurs qu'il a été mobilisé en juin 2024 dans des conditions anticonstitutionnelles. Le président du Sénat lui-même, qui n'est pas un zadiste échevelé, je pense à Gérard Larcher, a fait consigner par les archivistes du Sénat, qu'il n'avait pas été consulté. Il n'a pas été consulté. L'article 12 prévoit au moins formellement que on ne soit pas informé quand on est président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, mais consulté, il ne l'a pas été. Mais bon,
il était juste c'est la informé, cinquième.
Oui. La cinquième République.
Alors, je pense que c'est le moment où on a besoin un peu d'espoir. Et j'aime parce que vous dites aussi dans votre épilogue que malgré tout, les similitudes, il y a beaucoup de différences. Alors, est-ce qu'on peut se plonger un peu dans les différences, les contre-pouvoirs que vous voyez par rapport justement à la très jeune République de Weimar, première expérience démocratique dans un climat d'après-guerre?
Mais en réalité, quand j'ai fait ce livre-là, bon, j'avoue que mon entourage proche a commencé à douter de ma santé mentale quand, à l'été 2024, je leur disais que j'étais très épanoui en rédigeant ceci. Pourquoi ? Parce que, un, ça m'empêchait de fulminer face au spectacle lamentable de la procrastination élyséenne qui avait décrété « Oh, on fait des élections, puis finalement on ne respecte pas, et puis ensuite trêve olympique, et puis ensuite on verra, et puis ensuite pour la stabilité, on va nommer Michel Barnier qui a fait 5%. » Non mais, alors, j'avais au moins le bénéfice du divertissement pascalien. J'étais occupé à autre chose, et mieux que ça, au-delà de la boutade pascalienne, en réalité, je comprenais vraiment pourquoi je faisais de l'histoire. Pourquoi est-ce que je fais d'histoire ? Moi, c'est avant tout pour moi, c'est-à-dire pour comprendre ce qui se passe, pour aiguiser mon regard, pour préciser les concepts, pour identifier des dynamiques, pour voir des configurations politico-sociales et me dire « Ah oui, ça se passe comme ça dans ces cas-là ». Et je trouve que, pour le coup, pour expliquer 32-33,